Journal des idées, Jacques Meunier.
Bonjour Jacques.
Bonjour Émilie, bonjour à tous.
On change de sujet et on reste sur ce qui nous concerne en ce jour férié, c'est l'Ascension, et vous revenez sur la signification religieuse et symbolique de cette fête chrétienne.
Eh oui, comme on sait, elle commémore la montée au ciel de Jésus et symbolise, après la résurrection, le passage de sa condition humaine à sa présence divine. C'est aussi la dernière rencontre avec les disciples qui se voient dès lors investis de la mission évangélique, soit, comme l'indique le terme grec, evangelion, répandre la bonne nouvelle. C'est donc le message qui est privilégié dans l'opération. L'apothéose étant une pratique finalement banale à l'époque, depuis César et l'assomption de grands prophètes de la Bible, une forme de tradition populaire sur ces terres judaïques. D'après Luc, cette ascension, elle se serait produite à Béthanie, le village où vivaient les amis de Jésus, Marthe, Marie et Lazare, la même où il l'avait ressuscité. Le grand théologien Hans Küng insiste dans un livre sobrement intitulé « Jésus » sur le contenu humaniste, amical et joyeux du message. La promesse d'un avenir meilleur au prix d'une conversion essentielle, épouser la cause de Dieu dans le monde, Jésus est en personne, écrit-il, le programme du christianisme, sa vie et sa mort, ses paroles et paraboles, ses actes et ce comportement d'un juif laïque ordinaire qui aura pris la plupart de ses matériaux dans le domaine de la vie quotidienne.
La commensalité et la nourriture sont d'ailleurs très présentes dans les évangiles, Jacques.
Oui, c'est l'angle adopté par Daniel Bourgeois dans un livre publié chez Payot sous le titre « Jésus de Nazareth ». Au cours de ses tournées de prédication, le Christ et sa troupe étaient souvent invités à des banquets, comme aux noces de Cana, ou tout simplement au pain quotidien. Mais ces déplacements constants devaient supposer un budget pour les 12 apôtres et leur Messie. Un détail de l'évangile de Jean révèle que Judas, déjà lui, se servait sans vergogne dans ses maigres ressources. Je cite, « Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce qu'on y mettait ». Par ailleurs, si l'on en croit Marc, la forte audience des prêches du Galiléen reportait fréquemment toute pause sandwich. Alors, je cite, « Alors Jésus revient à la maison où de nouveau la foule se rassemble si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Sinon, le régime alimentaire du Christ, réputé frugal et apte au jeûne, même de 40 jours, devait ressembler à celui des classes populaires agricoles de cette région de Galilée, du pain, nourriture de base de l'espèce humaine, des gruaux ou des céréales préparées avec du lait, des olives et parfois du fromage. Les fruits, figues, dattes, raisins, noix et amandes, la grenade au jus miraculeux, un luxe lorsque de généreux propriétaires les dispensaient au moment de la récolte. Comme Jésus avait recruté plusieurs pêcheurs du lac de Tibériade parmi ses disciples, le poisson devait agrémenter l'offrande d'anciens collègues. La viande était réservée au jour de fête, mais le calendrier du prédicateur avait ses propres impératifs. Pauvreté itinérante et provocation transgressive en faisaient partie, comme en témoigne ce repas chez un pharisien, sans doute un notable, où le Christ reçoit la visite impromptue, mais sans doute manigancée, d'une prostituée implorée venue chercher le pardon alors que les femmes ne sont pas admises à participer au banquet. Au lieu de la rejeter, comme elle aurait dû en tant que prophète aux yeux de son hôte, Jésus retourne contre lui ses reproches, estimant son hospitalité inférieure aux gestes attentionnés et limites érotiques de la courtisane, onction de parfums, caresses et massages des pieds. La transgression des règles alimentaires très strictes de ses frères hébreux fait aussi apparemment partie du programme du Sauveur. Si le premier vin servi lors des noces de Cana était sans doute conforme aux normes de la cacheroute, vendangé, foulé, élevé et mis en jarre par un viticulteur juif. Celui que produit miraculeusement Jésus en transformant l'eau en vin l'était beaucoup moins puisqu'il s'agissait de l'eau destinée au rite de purification pour se laver les pieds et le visage. On comprend que Jean est tenu à souligner la discrétion de l'initiative de Jésus pour ce miracle. Et d'une manière générale, la mise en scène de la commensalité est l'occasion d'une leçon sur la miséricorde divine à l'égard des plus humbles. En réponse aux pharisiens qui reprochent à ses disciples de ne pas respecter les règles de l'hygiène rituelle, Jésus cite Isaïe « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi ».
Et Jésus annonçait le royaume et c'est l'Église qui est venue, disait Alfred Loisy, théologien excommunié en 1908, Jacques.
Mais oui, c'est tout le problème des catholiques intransigeants, une véritable dissonance cognitive. exprimé avec élégance par Bernanos lorsqu'il cessait à traduire la voix de Dieu à Luther, le dernier des hérésiarques, qui, comme tous les dissidents, s'emploie à établir une orthodoxie plus rigide encore que celle de l'Église romaine. Car c'est vrai qu'on m'a construit des palais avec des galeries et des péristyles sans nombre, magnifiquement éclairés jour et nuit, peuplés de gardes et de sentinelles. Mais pour me trouver là, comme sur la vieille route de Judée ensevelie sous la neige, le plus malin n'a encore qu'à me demander ce qui lui est seulement nécessaire, une étoile et un cœur pur.